Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est une nouvelle semaine d'Instant M qui démarre.
Et vous coupez ?
Non, je coupe.
Vous êtes en direct, allez-y.
Tinder, gigantesquissime application de rencontre, 800 millions de dollars de chiffre d'affaires, met en contact des femmes et des hommes dans 190 pays depuis maintenant 6 ans. Tinder et autres faiseurs de sexe et d'amour façon 21e siècle. Une journaliste s'est inscrite sur le réseau et s'est laissée griser par l'afflux de prétendants numériques. Jusqu'à ce qu'elle s'interroge sur la façon dont l'application lui choisissait des garçons. Comment l'algorithme conditionne-t-il les relations entre ses utilisateurs ? Sur quels critères ? Début d'une enquête racontée à la première personne. Déboires sentimentaux et confidences girly à la clé. Publication dans le Guardian en Grande-Bretagne, puis un livre en France. Le tout fichant un sacré bazar chez le géant de la Silicon Valley. Ils sont comme ça là-bas, ils n'aiment pas du tout, mais alors pas du tout qu'on fouille dans leurs entrailles numériques.
L'Instant M, Sonia De Villers sur France Inter.
Arthur, pharmacien, bon parti. Ah. Eh ben on like, oh là là. On like le pharmacien.
Okay,
eh Jack, il est pas mal, bon il est en noir et blanc, mais il est pas mal, il est à 3 km bébé.
Eh ben eh. On le rencontre après.
Et bonsoir.
Enfin,
je vous promets, il y en aura pour les garçons aussi. Il n'y a pas que les filles qui sont ridicules quand elles sont sur une appli de rencontre. Bonjour, bonjour Judith Duportail.
Bonjour.
L'amour sous algorithme vient juste de paraître aux éditions de La Goutte d'Or, va paraître en espagnol. Et puis évidemment, ça va se diffuser et se répandre dans plusieurs langues.
C'est en cours de négociation en ce moment, on l'espère.
On l'espère, tout à fait. Voilà. Alors on va dire un mot d'abord de ce que c'est que le swipe et de ce que c'est qu'un match. Qu'est-ce que c'est qu'un swap ?
Alors, donc Tinder, quand on se connecte, donc moi je suis une femme hétérosexuelle, donc l'application me présente des profils d'hommes.
Ouais.
Et elle doit son succès à sa grande simplicité.
Ouais.
C'est-à-dire que si le mec me plaît, je swipe, je balaye à droite.
Ouais.
S'il ne me plaît pas, je balaye à gauche. Si lui aussi a balayé ma photo à droite, ça veut dire qu'on s'est mutuellement plu, donc on a un match et on a le droit de se parler.
Chaque jour, 2 milliards de matchs dans 190 pays, je l'ai dit, c'est plus qu'un phénomène de société. Extrait d'un complément d'enquête diffusé récemment sur France 2.
C'est terrible, c'est vraiment le genre de choses qu'il ne faut pas regarder parce que tu te dis « Waouh, mais tout ça c'est des gens à rencontrer, c'est trop bien !» Je me réveillais la nuit pour faire mes swipes autorisés... Parce que j'étais arrivé au bout des 12 heures et que Tinder m'envoyait une notification disant « Vous pouvez de nouveau liker ». Ça a créé chez moi une tension nerveuse telle que j'ai commencé à avoir de l'eczéma. Et clairement, de l'eczéma sur la... Enfin, on est genre sur quelque chose de fou, quoi. Parce que c'est somatique, c'est un truc dingue où mon corps me dit « Stop, arrête, voyant rouge, quoi ».
Au départ, Judith Duportail, vous dites « J'ai reçu une grande quantité de likes, je gobe le mensonge, c'est un shoot de narcissisme et chaque match est un frisson ». Oui, on en devient accro.
Ah, complètement, oui. Je pense que, particulièrement les personnes comme moi, je pense que moi, je me suis inscrite sur Tinder après une rupture, dans un moment un peu de doute ou de fragilité.
Vous aviez quel âge ?
28.
Ouais.
Et j'étais, moi, j'ai jamais eu trop confiance en moi et en mon apparence. Et du coup, je vais sur Tinder et il y a tous ces mecs qui me parlent et qui veulent boire des verres avec moi. Et je me dis, mais en fait, mais j'ai trouvé la solution à tous mes problèmes. Enfin, quelque part, il y a une espèce d'euphorie qui se crée, qui est de courte durée, parce qu'après, la réalité vient me rattraper au collet. Mais exactement comme ce que décrit ce garçon-là dans son témoignage-là, qui est assez puissant, il y a un espèce de phénomène addictif très fort.
C'est ça, et surtout qu'on se croit maître du jeu,
complètement.
C'est ce que vous dites au début. Et dès le départ quand même de votre enquête, vous mettez le doigt sur quelque chose, vous dites les hommes sont sur Tinder pour une rencontre d'un soir, les femmes pour améliorer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Donc c'est dire jusqu'où va l'utilisation d'une application de dating, puisque c'est comme ça qu'on...
Oui, c'est très intéressant ça, c'est une étude qui a été menée par des sociologues que je cite dans le livre,
ouais.
Où en fait les femmes aujourd'hui ont tendance à aller sur ces applis, non pas pour faire une rencontre, mais juste pour aller prendre ce petit shot de narcissisme,
ouais.
Se dire, ah bah c'est bon, ça me rassure, j'ai plein de matchs, ça va, en fait je peux plaire quoi.
802 pages de données personnelles, c'est ce qu'après maintes et maintes combats, vous avez fini par obtenir auprès de Tinder 802 pages de données personnelles qui vous ont été envoyées par l'application. Vous Vous en avez fait un article pour The Guardian, publié le 26 septembre 2017, et titré « J'ai demandé mes données personnelles à Tinder, j'ai reçu 800 pages de mes secrets les plus sombres et les plus enfouis ». Ça aura été un des articles les plus lus du site du Guardian. Et derrière, ça a obligé Tinder à réagir, à mettre en place une option « Download my data » permettant aux utilisateurs de demander leurs données personnelles. Qu'est-ce qui vous a sauté à la figure quand vous avez reçu ces 802 pages?
Ça a été une expérience très intense, on va dire. J'ai reçu ce mail, je me souviens, c'était un lundi à 14h, et le temps de lire les 800 pages, j'ai quitté mon ordinateur, il devait être 21h, quelque chose comme ça. Et c'était incroyable, j'avais l'impression en fait de lire la vie de quelqu'un d'autre.
Ouais.
Parce que donc au début, il y avait mes infos personnelles, les données me définissant auprès de Tinder. Mais il y avait aussi tous mes matchs et tous mes messages. Et moi, j'étais persuadée d'avoir parlé 50 mecs sur Tinder. Et là, quand j'ai vu ces pages écrites noir sur blanc les unes à la suite des autres, je me rends compte que j'ai parlé avec 800 mecs. Et je me dis, mais en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a la personne qu'on croit être en ligne et la personne qu'on est réellement. Moi, je pensais me connecter de temps en temps, avoir des conversations sympathiques, puis ne plus jamais revenir. Je me rends compte que parfois, j'ai un comportement presque compulsif à revenir, à parler, à faire les mêmes blagues à 3-4 personnes en même temps, dans une espèce de tentative de contact, de lien dans les moments où je me sens seule. Et lire ça, noir sur blanc...
Et puis surtout, oui. Tout ce que vous ne saviez pas de vous-même,
exactement.
Que vous lisez dans ces 800 pages,
exactement.
Vous réalisez d'un seul coup que Tinder le sait. Et le
exactement.
Sait, il a compris depuis longtemps. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans votre démarche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ce que conserve le site et ce qu'il sait de vous, il y a ce qu'il va en faire. Et c'est là où vous allez pousser beaucoup plus loin l'enquête, au-delà de ce que vous avez produit pour le Guardian, c'est-à-dire comment Tinder conserve ses annotations, comment il les organise, comment il les classe, comment il les hiérarchise. D'ailleurs, vous avez un petit moment de vertige et vous vous dites, j'ai une vingtaine d'applications sur mon smartphone, et s'il y avait 800 pages à chaque fois sur moi?
Exactement, ce qui est fort probable, hein, même peut-être plus que 800 pages hein, sur Facebook, sur Twitter, etc. Faut imaginer, j'imagine du coup mon téléphone, je me dis mais c'est un immense mouchard. Et si toutes ces données, elles avaient un poids, mon téléphone, je pourrais même pas le porter quoi. Peut-être même il transpercerait le sol.
Au départ, vous étiez journaliste au Figaro.fr. Tout a commencé parce que sur le site de Fast Company, qui est un magazine américain de business, vous tombez sur le papier d'Austin Carr. J'ai découvert ma note de désirabilité sur Tinder et je le regrette. Il a donc rencontré Sean Rad, qui est le cofondateur de Tinder. Il a découvert un système de classement interne des utilisateurs. Alors, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est qu'un Elo Score, puisque la suite de votre enquête, ça va être à la recherche de votre note sur Tinder, à la recherche de cet Elo Score.
C'est ça, je lis cet article et donc je découvre que nous sommes tous notés secrètement sur Tinder selon notre désirabilité. Que nous avons un Elo Score. Le Elo Score, c'est un
Elo,
système de...
E-L-O.
E-L-O. C'est voilà. Un système de classement inspiré des échecs. La FIFA a annoncé qu'elle allait le mettre en place pour les joueurs de foot aussi. C'est une cote que vous avez qui évolue en permanence. Par exemple, si je suis joueuse d'échecs et que je vais jouer un match contre un excellent joueur, enfin un match, une partie contre un excellent joueur et que je gagne plein de points. Par contre, si je perds contre un joueur médiocre, je perds plein de points. Et donc sur Tinder, était installé un système similaire. Si vous matchiez contre une bombasse, on va dire, vous gagnez des points. Et contre quelqu'un d'un peu moins loti, moins bien loti, vous en perdiez. Ouais.
Extrait de la série britannique Black Mirror.
Il vous faut un coup de pouce.
Quel genre de coup de pouce?
Eh bien, vous interagissez surtout avec un cercle très restreint et ces personnes sont en grande partie, passez-moi l'expression, plutôt moyen ou bas de gamme. C'est pareil avec votre cercle extrinsèque. Vous avez une tonne de gens avec la note maximum qui travaillent dans le tertiaire, mais ça s'arrête là. Du moins, c'est ce que j'ai pu voir. Donc, en termes de qualité, il y a moyen de booster votre profil. L'idéal serait d'être bien noté par des profils vraiment haut de gamme.
Des profils haut de gamme?
Les influenceurs. Impressionnez ces gens hautement qualifiés, vous gagnerez rapidement des points. Il est là, votre coup de pouce.
Judith Duportail, à la recherche de sa note sur Tinder, vous avez rencontré un mathématicien suisse de haut niveau diplômé de Stanford qui a travaillé pour le Guardian à propos du scandale Cambridge Analytica. Vous vous souvenez, c'était les données perso de Facebook qui ont servi à de la propagande politique. Et lui, il vous le dit, oui Judith, nous sommes dans l'univers numérique évalué une centaine de fois par jour, chacun d'entre nous.
Oui, tout à fait. Moi, je vais à sa rencontre en lui parlant du Elo Score en étant horrifiée. Puis il me dit, je comprends que tu sois scandalisée, mais faut avoir conscience qu'on est noté absolument partout. Donc sur notre désirabilité, mais ça, comme on l'a déjà expliqué plein de fois aussi, sur notre solvabilité ou sur pour avoir accès à des emplois, toutes sortes de choses. Black Mirror, là, l'extrait que vous venez de diffuser, c'est plus du tout de la fiction. La seule différence entre Black Mirror et aujourd'hui, c'est que eux, au moins, savent qu'ils sont notés et ont accès à leurs notes. Et peut-être ont encore cette toute petite marge de manœuvre de pouvoir les augmenter. Quand nous, toutes ces notations aujourd'hui, elles sont opaques, elles sont faites dans notre dos, sur des données auxquelles nous n'avons pas accès, que nous ne savons même pas quelles sont ces données.
Alors, petit à petit, vous commencez à pénétrer ces critères d'évaluation, parce qu'encore faut-il savoir sur quoi on est noté et comment on est noté. Ça commence par l'évaluation de votre photo.
Oui, tout à fait. Donc, je suis contactée par des activistes avec qui on travaille à faire des estimations l'évaluation du taux de succès de ma photo. Et grâce à ces activistes, on découvre, par exemple, que mon profil est swipé à droite à 55%.
Mm-hmm. Ouais. 55% ouais. De likes. C'est on ça. Comprend très rapidement qu'on est évalué sur notre intelligence. Comment peut-on être évalué sur notre intelligence dans sur une appli de rencontre avec le test entre autres, Kincaid, inventé par la marine en 1975. Sur quoi ça
Ah oui, alors ça c'est assez terrifiant. Donc c'est au cours de mon enquête, je découvre le brevet de Tinder, qui est la description de ce qui peut se passer en ce moment sur les serveurs de Tinder. Un brevet, c'est ce qu'on dépose pour qu'une invention soit la vôtre, votre propriété intellectuelle.
Et d'ailleurs, vous le dites, les médias ont très bien fait leur boulot. À force de répéter qu'un brevet est quelque chose de secret, personne ne va le chercher.
Oui, ça c'est incroyable. En fait, à force que Tinder ne réponde « Ah non, l'algorithme est confidentiel, on dit rien », et bien finalement, on va pas chercher un document qui est public, qui est sur Google, qui est le brevet de Tinder. Qui donne énormément d'informations sur l'état d'esprit de l'entreprise. Et donc, pour revenir à votre question précédente, du coup, on découvre en lisant ce brevet la description d'un système de notation extrêmement sophistiqué qui explique notamment qu'on peut être évalué sur son intelligence sur Tinder. Ça, c'est assez terrifiant.
Question de vocabulaire, ma chère.
Ouais. De vocabulaire. Ça veut dire que Tinder se réserve la possibilité d'étudier le nombre de syllabes qu'on emploie par mot. Est-ce qu'on emploie des mots compliqués et à faire passer nos
récits. Le nombre de
récits.
Mots moyens par phrase.
Voilà, c'est ça. Et ces formulations, c'est terrifiant. Elles font froid dans le dos. Ouais. Et faire passer nos écrits, faire passer un test à nos écrits, le test que vous citiez, qui a été inventé donc par l'armée, quoi, pour définir le niveau d'éducation d'un locuteur.
Ouais, c'est ça. Et puis il y a tout un système de bonus et de malus en fonction de notre âge, de notre profession, de nos revenus. Et puis surtout, vous commencez petit à petit à vous poser la question, c'est-à-dire oui, comment je suis notée moi, mais à quoi ça sert cette note dans la mesure où tout est interaction et tout est interférence, c'est-à-dire comment cette note va être utilisée pour me mettre en relation avec un garçon. Et là, vous rentrez dans quelque chose d'assez incroyable, c'est cette recherche des points communs entre les utilisateurs. On laisse croire à chaque utilisateur en une destinée commune. On fait semblant, Tinder fait semblant, que c'est le hasard.
Dans le brevet, oui, est développée une fonctionnalité qui s'appelle sens du destin, qui est assez incroyable. Ça veut dire que donc Tinder se réserve la possibilité de chercher entre nous et d'autres utilisateurs des points communs comme nos syllabes ou la date de naissance ou la profession de nos parents, pour qu'ensuite, si jamais
même des éléments publiés dans une photo, une photo de vous sur un bateau ou à la montagne,
vous cherchez peut-être quelqu'un qui est comme vous, qui aime les outdoor activities, les activités de plein air. C'est l'idée que si jamais vous vous rencontriez, vous puissiez avoir des éléments pour créer ce qu'on appelle en psychologie un mythe fondateur de votre couple. Ce que je trouve à la fois très, quelque part, mignon, dans le sens où dans le sens où c'est vrai, quand on se rencontre, on a envie de chercher ses points communs. Et d'un autre côté, terrifiant, dans le sens où je me demande, mais à quel point on est des Sims, en fait, pour ces entreprises-là? À quel point c'est si facile?
Qu'est-ce que c'est qu'un Sims?
Ah oui, vous savez, c'est ce jeu où on a dans les maisons, À quel point c'est facile de me manipuler, de jouer avec mes émotions pour me faire croire à des hasards ou à des destinées qui n'en étaient pas?
Alors, un film d'il y a 30 ans qui n'a pas pris une ride, quand Harry rencontre Sally.
Et en plus, je vais avoir 40 ans!
Quand?
Un jour!
Dans 8 ans.
Mais on y est déjà! Ils sont là! Je suis au pied du mur dans le cul-de-sac! Bon, pour les hommes, c'est pas pareil! Charlie Chaplin a été père pour la dernière fois à 73 ans!
Oui, mais il ne pouvait plus porter son môme.
Vous citez, Judith Duportail, de nombreux journalistes anglo-saxons qui ont travaillé très très sérieusement sur ces questions. Vous citez, on l'a dit, des chercheurs suisses, britanniques, allemands de l'université de Bremen, américains, à se demander quand même si les journalistes français, l'université française, prennent toutes ces questions très au sérieux, puisque on voit que vos sources sont toutes à l'étranger, et principalement dans les pays anglo-saxons. Il en sort un gigantesque système patriarcale de vision des relations entre les hommes et les femmes qui est non pas appliquée dans l'univers numérique mais démultipliée par l'univers numérique.
Oui, là c'est, du coup c'était très intéressant que vous passiez l'extrait de Harry et Sally, parce que dans le brevet Tinder le nom des utilisateurs fictifs s'appelle donc Harry et Sally, ouais. Et ils expliquent que donc les hommes, si un homme a un bon emploi, gagne beaucoup d'argent, etc., dans le système de notation expliqué par le brevet, il va avoir des points malus, alors qu'une femme, prenez l'exemple de Sally, si elle a le même âge, elle fait le même métier et elle gagne beaucoup d'argent, elle aura, elle, des points malus. Et ce brevet, en fait, favorise les couples où l'homme a le dessus sur la femme d'une façon ou d'une autre.
Alors l'homme est plus âgé.
Soit plus âgé,
il est mis en relation avec des femmes plus jeunes, c'est totalement naturel, et l'inverse, pas du tout. Ouais. L'homme est plus instruit, la femme est moins instruite, c'est tout à fait naturel.
Ou plus riche.
L'inverse.
Voilà.
Ou plus riche.
C'est ça.
Et vous, vous dites finalement, ça colle aux chiffres de l'INSEE en France, où vous dites une femme est en moyenne 4 fois plus jeune que l'homme et gagne en gros 42% de moins en moyenne. En France, ce sont les chiffres de l'INSEE.
Oui, c'est ça. Mais alors après,
voilà,
ça pose
gravé dans le marbre de l'algorithme.
Ça. Exactement ça. Du coup, ça veut dire que vous avez une réalité sociale avec ces inégalités. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on la rende incontournable et qu'on fasse des biais sociaux, des murs d'enceinte qu'on pourra plus jamais contourner? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. On sait que les femmes, par exemple, gagnent moins que les hommes dans la vie. Est-ce que c'est pour autant que sur LinkedIn, on doit faire en sorte que les offres d'emploi qu'elles reçoivent soient systématiquement 20% moins bien payées que celles des hommes? Moi, je pense pas. Enfin,
c'est extrêmement intéressant parce que vous dites que par ailleurs, Tinder s'engage haut et fort pour l'égalité salariale, développe des opérations pour encourager les femmes dites téméraires. C'est même leur vocabulaire
tout à
eux.
Fait. Ah oui, là, du coup, si ce système de notation a été appliqué tel quel, ça pose une immense question de crédibilité ou de cohérence, parce que publiquement, Tinder a des prises de position très progressistes. Et puis après, quand on met la main sur des documents écrits de leurs mains, dévoilant leurs entrailles, c'est un tout autre système de valeurs auquel on a accès. Et du coup, on est en droit de se demander à quel moment disent-ils leur vérité.
Et le 15 mars, Tinder publie un papier pour s'expliquer. Vous auriez pas un peu fichu la pagaille là-dedans?
Peut-être. Ouais, en tout cas, ça faisait plusieurs mois que j'étais en contact avec eux et qu'ils refusaient de répondre à mes questions. Et une semaine avant la sortie du livre, ils ont publié un billet de blog expliquant abandonner le Hello Score et la note de désirabilité.
Ouais. Mm-hmm. Mm. On les croit?
Alors ça, faut continuer à travailler. Ouais, c'est ça. Faut continuer à bosser.
Par ailleurs, vous êtes entrée en contact avec l'une des cofondatrices. Il y avait une femme à l'origine de Tinder. Elle a depuis créé Bumble, c'est ça, une appli de rencontre qui se dit féministe, c'est-à-dire où seules les femmes prennent l'initiative d'engager la conversation. Mm-hmm. Il se trouve que elle s'est séparée de son petit copain qui faisait partie des autres cofondateurs et qu'ensuite elle a vécu l'enfer, harcèlement, discrimination. Ça a été très loin. Et là, on a mis le doigt aussi sur l'espèce de boys club qui était à l'origine de Tinder, qui est très très loin également de l'image que se donne Tinder dans la Silicon Valley.
Oui, tout à fait. Oui, du coup, Whitney Wolf avait déposé une plainte pour harcèlement sexuel. Et ça s'est soldé par un accord.
Confidentiel,
voilà. Et du coup, ensuite, elle est partie pour monter une application de rencontre dite féministe. Je pense que ça en dit long sur l'expérience qu'elle a vécue là-bas. Ouais.
Merci beaucoup, Judith Duportail. L'amour sous algorithme aux éditions de La Goutte d'Or. C'est plein de confidences que vous n'avez pas laissé votre maman lire. Les parents interdits de bouquins. Merci beaucoup, Judith Duportail. Bonjour, Ali Rebbi.
Bonjour, Sonia de Villers. Je me demande s'il existe des applis de rencontre autour du fromage.
Ah bah, en tout cas, ça pourrait naître en France.
Oui, donc toutes vos questions
moi,
sur le fromage.
Moi, le gorgonzola. Plus il y a de la crème, plus j'aime.
Bienvenue au club. Vous pouvez témoigner, si vous voulez, au 01 45 24 7000. Toutes vos questions sur le fromage, où on évoquera notamment les bienfaits du fromage. Et puis, comment bien composer un beau plateau de fromage. On attend toutes vos questions au 01 45 24 7000.